Avec ce soir Alexis Corbière, député écologiste et social élu de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
On va discuter avec vous de la gauche. Le duel pour la tête du Parti Socialiste opposera donc dans un second tour, c'est le 5 juin prochain, le sortant Olivier Faure au maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. C'est le troisième, Boris Vallot, qui va devenir l'arbitre. Dans tous les cas, les deux hommes, ce qui concerne ceux qui vont se livrer le duel, ont un point commun, vouloir s'éloigner visiblement du NFP et en particulier de la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire que l'Union de la gauche est en fin de vie, Alain Duhamel?
En fin de vie, je ne dirais pas ça. Mais gravement malade, oui. Elle est gravement malade, d'abord, quand on regarde leurs perspectives présidentielles. Jean-Luc Mélenchon est absolument déterminé à y aller une quatrième fois. Ça fait un candidat. À côté, on ne sait pas ce que fera à l'arrivée le Parti communiste, parce qu'il a souvent envie d'avoir un candidat. Mais surtout, parmi les autres, les écologistes, les socialistes, et puis ceux qui sont avec les écologistes et les socialistes, il y a visiblement deux stratégies. Il y a une stratégie qui est de dire il nous faut un seul candidat entre Ruffin et Glucksmann, et puis d'autres qui disent ah ben non, il faut un grand parti socialiste avec un candidat socialiste. Si c'est cette deuxième thèse qui l'emporte, eh ben, ça signifie qu'à l'arrivée, il y a probablement quatre candidats, sans parler des candidats trotskistes par ailleurs.
Bon, pas facile de se qualifier pour le deuxième tour.
C'est très difficile. Ça, c'est vrai pour les présidentielles. Maintenant, pour les législatives, parce qu'après tout, il peut y avoir des législatives avant la présidentielle. Pour les législatives, il y avait un contrat implicite, et d'ailleurs, que j'ai toujours trouvé incroyablement cynique, et qui était les insoumis offrent des circonscriptions éligibles, et on se moque de leur programme, on l'accepte, on l'avale et on le lit pas, du côté des socialistes. Bon, bah maintenant, ça ne marche plus. Et je pense que ça va être compliqué. Puis je termine. Il y a, de toute façon, pour moi, quelque chose d'historique qui est la gauche ne gagne jamais quand la gauche de rupture est plus forte que la gauche de gouvernement ou la gauche réformiste.
Alors ça se discute. La période a changé. Vous m'avez présenté comme député écologiste et social, mais je crois qu'on sait que pendant longtemps, j'ai cheminé, et plus que ça, avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis un insoumis purgé, mais...
Vous avez bien connu aussi le Parti Socialiste.
Bien sûr. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que y a les questions stratégiques, et vous avez parfaitement résumé ce qui était dans le cœur du débat du Parti Socialiste, c'est une question stratégique moins que programmatique. Si on était même méchant, on peut même dire que programmatiquement, franchement, ils ont encore beaucoup à travailler. Mais stratégiquement, il y a quelque chose de très important. Comment on analyse la nouvelle période? Vous qui avez une mémoire longue du paysage politique. Nous sommes dans un monde de tripolarisation de la vie politique. Et je crois qu'à partir de là, si on le comprend, c'est-à-dire que ça fait l'extrême droite est là, ça fait deux fois que Marine Le Pen est au second tour, elle progresse entre ces deux second tours, entre 2017 et 2022, de près de 24% entre les deux tours, est en progression, et un homme comme moi, qui ne le souhaite pas, pense sérieusement qu'elle peut l'emporter à la prochaine élection présidentielle.
Si elle le peut.
Ou Jordan Bardella, le candidat qui porte ses couleurs. On voit même que ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, on doit définir une stratégie qui correspond un petit peu à ça, à cette tripolarisation, à la menace de l'extrême droite. À partir de là, aussi, observons que quand on fonde la France Insoumise en 2016-2017, le total gauche est à 43%.
Et aujourd'hui, à 32.
Voilà. Donc, à partir de là, ce que je plaide, moi, c'est qu'il faut se rassembler pour porter autant que possible une candidature unique ou une candidature commune de moindre division pour s'assurer d'être au second tour.
Derrière qui ?
Alors, c'est tout le débat. Au second tour de l'élection présidentielle. À ce stade, derrière qui ? J'essaye d'abord, suis-je compréhensible, d'abord de plaider, est-ce qu'il y a une volonté ? Lucie Castel a lancé un appel le 2 juillet. Retrouvons-nous avec les forces politiques dans le cadre du nouveau Front Populaire. Vous n'aimez pas ce programme, mais c'est quand même un programme. Le succès de Mélenchon n'est pas dû qu'au talent seulement de Jean-Luc Mélenchon.
Ça compte beaucoup.
Certes, mais il a porté...
Et au fait que, malheureusement, les électeurs lisent rarement de très près les programmes.
Eh bien, cher Alain Duhamel, on va parler peut-être après des 20 ans qui nous séparent du traité constitutionnel européen.
Oui.
Je crois que ce qui est majoritaire à ce qui s'est exprimé à ce moment-là, c'est que ce qui est majoritaire dans la gauche, c'est quand même le rejet de l'Europe libérale. Et il y a une attente de plus en plus...
On en parlera après.
Oui. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est ce à quoi je voulais amener, c'est qu'un candidat de gauche ne doit pas être seulement dans la reproduction de vieilles recettes. Moi, le débat réformisme, social-démocratie, gauche de rupture, Franchement, en vérité, je crois que tout le monde aujourd'hui, de gauche, hein, s'accorde à dire qu'il faut que le travail paye mieux et qu'il y a un problème de répartition des richesses, qu'il faut une rupture fiscale, on peut l'appeler révolution fiscale, mais quoi qu'il en soit, il faut sérieusement prendre à bras le corps le fait que dans ce pays, des gens ont accumulé des richesses et qu'ils ne sont pas assez sollicités. Tout le monde est un peu écologiste de gauche aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 20-30 ans, mais tout le monde comprend bien que le mode de production épuise non seulement les hommes, mais la nature elle-même. Et je termine, tout le monde voit bien que la Ve République est un système démocratique assez essoufflé, à savoir qu'on impose... Moi, je suis député.
Tout le monde ne veut pas la sixième, non?
Non, mais regardez, non, par exemple, je discutais avec des collègues qui sont allés depuis 2022, on vote plus de budget à l'Assemblée nationale, que des 49-3. On a même eu, ça peut-être que vous, qui êtes un spécialiste, ça vous a étonné, la loi Duplon, là, il y a deux jours, où le gouvernement lui-même a appelé à rejeter un texte qu'il soutenait pour que les députés discutent.
Mais attendez.
Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que finalement, de Glucksmann à Mélenchon, on pense tous à peu près la même chose à gauche?
Non, pas du tout.
C'est pas ce que dire.
Juste parce que je vais vous donner, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a un chemin où on peut quand même arriver. Moi, c'est mon idée.
C'est pas ce que dit
on peut arriver à 10-15 points forts que nous portons ensemble.
Non, mais ça, que ce soit votre espérance, je l'avais compris. après tout, c'est une expérience extrêmement honorable. Que ça soit une réalité, ça n'est pas ce que je constate pour l'instant. Pour l'instant, oui, il y a un peu d'écologie partout à gauche maintenant. Ça, d'accord. Bon. Pour le reste, sur l'Europe, ça n'est pas un accord. Et sur la politique économique, ça n'est pas un accord. Parce que quand vous dites, on peut se mettre d'accord sur le fait que, au fond, tout le monde voudrait qu'il y ait plus d'impôts sur les riches et qu'il y en ait moins sur les autres, qu'il y ait un pouvoir d'achat qui augmente, etc. Oui, mais ça, c'est des espérances. C'est pas des modalités. Ce sont pas des propositions concrètes susceptibles de s'appliquer comme ça.
On est tous d'accord contre Tax Justman.
Non, mais je sais ce que c'est. Mais d'ailleurs, la Tax Justman, si par exemple, on disait 1% au lieu de 2%, déjà, ça aurait plus de chances de se produire. Étant entendu que ça n'est pas mis en œuvre dans les autres pays comparables aux nôtres. Bon, mais laissons ça. Un jour, moi, je ferais bien un débat sur la taxe Zuckerman, d'ailleurs. Mais en ce qui concerne les perspectives, d'une part, moi, je vois deux tentations différentes au sein de la gauche non mélenchoniste, mais vraiment différentes. Et d'autre part, en ce qui concerne un programme, alors vous me direz qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Bah si, parce qu'il peut y avoir des législatives dans 6 mois, et il peut y avoir même une présidentielle, on n'en sait rien.
Bien sûr.
Or, pour l'instant, eh ben, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme, il y a un programme Mélenchon, mais il n'y a pas un programme du reste de la gauche.
Alors, Glucksmann nous a dit ici même, souvenez, face à vous Alain, qu'il préparait un programme qu'il allait présenter en juin.
À la fin de juin.
Voilà. Oui, mais Raphaël
Glucksmann... ce qui est la démonstration de ce que je viens de vous dire, aujourd'hui, au moment où on parle, on est en mai, il n'y a pas de programme.
Non, je cite Raphaël Glucksmann parce qu'il a quand même fait un très bon score aux européennes et que dans tous les sondages, c'est celui qui finalement, avec Jean-Luc Mélenchon, est le mieux placé
après,
à gauche.
Mais après Jean-Luc Glucksmann, Mélenchon, mais très bien.
Et je ne veux pas être mordant, c'est sans doute un homme tout à fait charmant, je le connais peu, mais il a fait 13% aux européennes, ce qui représente 6% des électeurs inscrits. Yannick Jadot a fait le même score.
Manon Aubry a fait moins.
Non, j'entends bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il soit une composante de la gauche, c'est une évidence. Qu'il pense qu'il a le socle suffisant pour dire j'irai dans aucune primaire, je m'en fous, c'est autour de moi que ça se passe, je pense qu'il se plante totalement.
Oui.
Deuxièmement, quand même il a fait ce joli score, l'événement politique qui a fait trembler la scène politique, c'est que Macron a dissous, il y a dissolution, et à partir de là, c'est composé quelque chose dont il a été totalement absent. Et il y a une mobilisation avec une participation assez importante lors des législatives et la naissance du nouveau Front populaire. Quand on fait de la politique, on peut pas effacer l'histoire. Des millions de gens, 9,5 millions de gens sont venus voter pour le nouveau Front populaire et cette coalition fait dans des conditions terribles, mais vous connaissez ça mieux que moi. C'était pareil en 72, c'était pareil en 97.
Oui, oui, oui.
Chaque fois que la gauche s'unit, c'est au dernier moment, avec une baïonnette dans le dos, après s'être engueulée 1000 fois.
C'est mais pour ça qu'il fallait pas dissous.
Mais elle s'est réunie. Oh, ça, je suis d'accord. Enfin, du moins, ça.
Mais... Emmanuel Macron, finalement, l'avait pas vu, ça.
Mais oui. Non, mais l'erreur des. Pourquoi?
Il aurait dû consulter Alain Duhamel.
Si vous permettez. Emmanuel Macron est le père de la NUPES et le père de la
NUPES. Et a manqué de culture. Et a manqué de culture politique.
Mais c'est pour ça qu'il aurait dû aller voir Alain Duhamel.
Tout le monde croit que c'est Jean-Luc Mélenchon le père de la NUPES et le père du Nouveau Front Populaire. Pas du tout, c'est Emmanuel Macron.
Et il a manqué d'une culture politique qui fait que quand l'extrême droite est forte, évidemment que la gauche se rassemble. C'est une évidence.
Ben oui.
Donc, ce que je veux dire, ce qu'il vous semble impossible à ce stade, et je comprends, vous dites, le Corbière, il est un peu gentil, vous n'arriverez pas à réunir.
Non, je ne dis pas gentil, je dis idéaliste.
J'entends bien, bon, après tout, c'est pas plus mal.
C'est pas,
cher Alain Duhamel, ce que je crois, c'est que vous avez objectivement raison, mais peut-être que j'aurais politiquement raison à l'arrivée. Actuellement, vous avez raison, mais les gens de gauche ne voudront pas une division qui ouvre la porte à l'extrême droite. Donc à l'heure actuelle, j'ai l'air d'un homme, je suis pas le seul, qui prêche dans le désert. Vous me dites, Mélenchon, il va y aller, Glucksmann va y aller. Moi, je crois que malgré tout, il faut rationnellement poser la discussion que si nous sommes divisés, il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour.
Je suis d'accord.
Et nous perdrons.
Donc ça peut cheminer
dans la tête.
Alain et Alexis Corbière, il y a l'opinion elle-même, il y a les Français.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, ils ont une appétence pour la gauche ou pas?
Ils ont envie de gauche?
Est-ce qu'ils ont envie de gauche? Est-ce qu'ils ont envie d'un président gauche?
On a plutôt l'impression,
quand on regarde l'état de l'opinion, qu'elle est à droite aujourd'hui.
Alors, que l'opinion soit aujourd'hui à droite, et beaucoup plus à droite qu'il y a 10 ans, et encore plus à droite
qu'il y a 20 ans... Les sondages donnent une large victoire du RN face à Mélenchon.
Je suis d'accord. Là,
ça, c'est un sujet.
Mais aujourd'hui, Mélenchon a son socle habituel.
Oui.
Il a perdu en popularité, mais pour l'instant, en espérance de vote, il est au même socle que les dernières fois. Ce qui n'est pas tellement mal quand on a perdu déjà 3 fois, de continuer à avoir son socle. Et par ailleurs, personne dans le reste de la gauche n'a quelque chose d'équivalent. Bon, et je répète, parmi les autres, il y a ceux qui sont... Alors, vous êtes cohérents. C'est-à-dire, vous dites, il faut une primaire pour qu'il y ait un candidat et celui-là a une chance peut-être d'être qualifié pour le second tour. Et c'est vrai. Mais il se trouve que parmi les gens de gauche, il y a ceux qui sont d'accord pour une primaire et ceux qui ne le sont pas. Oui. Et que l'ennui est que celui qui l'est le moins de tous, c'est Raphaël Glucksmann, qui est lui-même un bon candidat et qui refuse la primaire. Oui. Résultat, vous avez théoriquement raison et vous avez politiquement tort. En tout cas, au stade où on en est aujourd'hui.
Au stade où on en est, tout à fait. La politique, c'est une dynamique. Au stade où on en est, j'entends que ce que je dis a l'air d'être une planante. Il n'empêche que je le répète.
Non, ça a l'air d'être idéaliste.
Oui, mais je le répète. Vous savez, la politique et la stratégie, et je le dis que ceux qui m'écoutent, c'est pas vous, mais souvent des insoumis qui actuellement me reprochent. Et moi, j'ai été insoumis passionnément. J'ai été passionnément mélenchoniste. D'accord? Je pense que Jean-Luc doit comprendre que nous avons changé de période. La stratégie du socle qui est la sienne. Moi, quand j'ai été porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en 2017, il était l'homme politique des Français. L'homme politique préféré des Français. Et tous 8 sondages successifs avaient montré qu'au second tour, il gagnait face à l'extrême droite. Il y a des sondages virtuels qui ont été faits.
Oui.
J'observe qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, réfléchissons, les amis de gauche qui m'écoutaient, qu'il faudrait aussi que le candidat qui nous rassemble soit quelqu'un qui, s'il venait à être au second tour. Parce que la stratégie du socle, elle n'est pas idiote. Peut-être que le ticket d'entrée au second tour sera autour de 17-18% à cette présidentielle.
Peut-être.
Mais celui ou celle que nous portons au second tour doit être celui ou celle qui bat éventuellement l'extrême droite et pas celui ou celle qui facilite la victoire de l'extrême droite. Je me fais comprendre.
Oui, vous avez vu le sondage. Oui, pour l'instant, Mélenchon serait battu par le RN.
Donc ça peut ouvrir une discussion raisonnable avec les gens qui veulent être raisonnables. De comment on se rassemble.
Qui serait le meilleur candidat au second tour.
Et quand je dis ça, je n'insulte personne. Je n'insulte pas Jean-Luc Mélenchon. Non, je dis comment on fait pour y arriver.
Il se trouve quand même que Jean-Luc Mélenchon est celui, d'une part, qui part du plus haut à gauche, assez nettement, et d'autre part, et ça n'est pas vous qui pourrez dire le contraire, que c'est celui qui est le plus doué pendant les campagnes électorales.
Eh ben, tout ce don et ce talent, il doit mettre au service. Alors, aidez-nous. Je connais le talent de Jean-Luc, son intelligence.
Alors, je suis d'accord. Si Jean-Luc Mélenchon dit finalement c'est Corbière qui avait raison, je me rallie et je le remercie d'accepter de me rallier à ses côtés. À ce moment-là, on peut en discuter.
Puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, la fracture de Jean-Luc Mélenchon avec le Parti socialiste, où il part fonder le parti de gauche aussi, c'est le référendum de 2005. Cette fracture sur l'Europe telle qu'elle s'est construite et telle qu'elle est aujourd'hui rejetée par les Français. Si les Français devaient revoter, ils revoteraient non 20 ans après, Alain Duhamel?
Alors, je me méfie un petit peu parce que les sondages hors période,
mais là,
réel...
C'est votre sentiment personnel d'analyste politique.
En tout cas, je pense que les Français ont aujourd'hui, à propos de l'Europe, des sentiments plus positifs que ça n'a été le cas en 2005. Pour moi, en 2005, ça a été une double catastrophe. Ça a été une catastrophe démocratique, parce que les Français ont voté d'une certaine manière et que les gouvernements ont agi de la manière opposée ensuite, comme si les Français n'avaient pas voté, et que ça a créé entre les Français et... non pas un homme, mais la représentation politique, un énorme fossé que je considère comme peut-être la chose, après le Rassemblement national, la plus dangereuse en ce moment. Et ça a été aussi, selon moi, Alors, je suis peut-être minoritaire quand je dis ça, mais selon moi, ça a été aussi une catastrophe pour l'Europe, parce que ce qu'on proposait, qui était d'ailleurs assez largement d'origine française, qui a été très mal présenté, très mal défendu, avec une campagne épouvantable de Jacques Chirac, etc., mais c'est comme ça, ce qu'on présentait, non seulement aurait fait avancer beaucoup de choses, et dans un sens que souhaitait théoriquement les gouvernements français depuis très longtemps, mais en plus aurait fortifié l'Europe, et aujourd'hui on se rend compte à quel point l'Europe est trop faible par rapport à Poutine, mais si, par rapport à Poutine, trop faible par rapport aux Chinois, et dramatiquement trop faible par rapport à Bush. Et que, bien entendu, il aurait fallu d'une Europe renforcée en face de Bush, en face de Poutine et en face de la Chine, qui est, au bout du compte, probablement le plus menaçant des trois.
Non, mais bon.
20 ans après, Alexis Corbière.
Alain Duhamel est très favorable à l'Europe. Moi, je suis plus critique. Ce qui avait été le débat il y a 20 ans.
Est-ce que les Français ont voté non?
Alors, question. Moi, je crois, premièrement, je vais répondre que le taux de participation a été très fort à ce référendum. Mmh. Ça a été un grand moment de politisation. Le texte était ingrat, mais les gens avaient lu. Je crois que ce qui s'est.
Avaient lu, n'exagérons pas. Non, mais avaient une idée.
Non, mais je veux dire, on avait quand même. Moi, j'avais mené campagne. Alain Duhamel, on avait mené campagne, les articles à la main, quand même. Je veux dire. Même si le texte
ceux qui menaient campagne, vous avez tout à fait raison.
Non, mais
qui votaient.
Oui, mais non, mais je veux dire, c'est pas.
Les Français, en tout cas, c'était intéressé.
Le pays s'est politisé, franchement.
Oui, s'est mobilisé, ça.
S'est mobilisé. Et ce que je veux dire, c'est que je crois, ce qui était l'argument fort qu'on portait à l'époque, était notamment le fait que ce texte constitutionnalisait la concurrence libre et non faussée. Moi, je pense que c'est acquis encore très majoritairement aujourd'hui à gauche que les gens ne veulent pas de l'ultralibéralisme dont ils voient les conséquences, de la toute concurrence. Donc, il y a un rapport, et parfois les partisans du oui avaient un rapport un peu naïf. Si vous êtes contre ce texte, c'est que vous êtes contre l'Europe. Vous êtes des nationalistes, etc.
À l'époque, chez certains adversaires du oui, c'était le cas. Pas chez tous, mais certains adversaires, oui.
Bon, bref, moi, ce que je crois, alors c'est difficile à refaire, c'est que précisément ce que je disais tout à l'heure, si aujourd'hui, et c'était ce dont se désespérait Alain Duhamel, si toutefois la gauche aujourd'hui, celui qui est arrivé nettement en tête à l'élection présidentielle, c'est qu'il est quand même un enfant du non de 2005.
Ah oui.
Et je crois que ce clivage n'a pas disparu.
Il est même le visage du non.
Voilà, le visage du non. Donc c'est la preuve que tout ça n'est pas terminé. Mmh. Et c'est pourquoi ceux que j'invite, je fais le lien avec les discussions tout à l'heure, c'est qu'il faut que nous nous rassemblions sur quand même une critique de cette Europe. Ça ne veut pas dire une critique d'un... Moi, je suis favorable à des solidarités européennes, bien évidemment, mais il y a un modèle quand même qui est essoufflé, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a eu des conséquences.
Il n'est pas assez renforcé.
Oui, mais qui a eu quand même des conséquences. On a désindustrialisé le pays, on a quand même organisé des conséquences.
C'est pas l'Europe. Ça n'est pas l'Europe parce que pendant que nous nous désindustrialisions, les Allemands s'industrialisaient davantage. Donc, c'est pas l'Europe. C'est nous.
Oui, mais
c'est les politiques économiques qu'on menait. Mais on peut pas dire que l'Allemagne s'est désindustrialisée pendant cette période européenne. Elle a cessé que de s'industrialiser davantage.
Mais l'opportunité que nous, on a vu en France, a été souvent. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi le modèle de l'Organisation Mondiale du Commerce, mais qu'on a considéré que nous, on allait plutôt se développer dans des services, et on a plutôt organisé des délocalisations au sein même de l'Europe, et on a quand même fabriqué.
Ce n'est pas l'Europe, c'est nous qui avons décidé ça.
Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que ce clivage reste encore présent, et qu'on peut pas l'effacer. Et puis, vous l'avez pointé, il y a non seulement le débat sur l'Europe, il y a aussi la question démocratique.
Mais oui, je peux vous rappeler.
Ça fait 20 ans qu'on consulte les Français.
On peut vous rappeler avec Olivier simplement un moment de cette campagne de 2005, 20 ans après. Vous vous souvenez de cette une de Paris Match?
Oui.
C'est François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Le chef de la droite et le chef de la gauche, quoi.
Voilà, les opposants qui avaient dit aux Français, regardez, est-ce que ça a été terrible, ça?
Oui, c'était effrayant. Ah oui. Ça n'était pas possible. Pour le symbole, les gens avaient le sentiment qu'ils n'avaient pas le droit de choisir.
Oui.
Et avant même le vote, et avant même les conséquences du vote, les gens ont eu l'impression que ceux qui avaient une part de pouvoir, ou qui aspiraient à l'avoir, ou qui l'avaient eu et ne l'avaient plus, que tout cela prenait leurs décisions entre eux. Et donc, quand ils ont eu le sentiment qu'on prenait les décisions, que les puissants prenaient les décisions entre eux, les Français en ont conclu que c'était contre eux.
Non, ils étaient habillés exactement
pareil. Mais
en plus,
ceci dit, je ne reprends pas, mais ils sont tous les deux devenus présidents de la République. Oui. Et c'est peut-être une tragédie française que ceux qui étaient pour le oui c'était aussi, c'est pas vrai. Le nom qui a pu diriger pendant les depuis 20 ans. Donc c'est quand même symptomatique. On n'a plus le temps. Ce que cela veut dire, c'est que c'est quand même les partisans du oui qui ont réussi à capter, à détourner, selon moi, même à trahir le sens du vote.
Mais les Français ont voté pour.
Ça veut dire que, ça veut dire que les Français étaient contre la Constitution européenne. Mais n'était pas forcément contre ceux qui étaient pour la Constitution européenne.
Ça a fait exploser la scène politique et aujourd'hui on voit bien ce qu'il en est. Parce que précisément, il y avait un problème de représentation politique.
Merci Alexis Corbière, merci Alain Duhamel.